talmudique. Le philosophe Alain écrit « Tout homme persécute s'il ne peut convertir. À quoi remédie la culture qui rend la diversité adorable ?» Il existe une version plus complète de cette citation. « Il n'y a de guerre que de religion, il n'y a de pensée que de religion. Tout homme pense catholiquement, ce qui veut dire universellement, et persécute s'il ne peut convertir. À quoi remédie la culture qui rend la diversité adorable, mais la culture est rare ?» Cette phrase d'Alain se trouve dans son livre « Les vigiles de l'esprit » au chapitre 43 intitulé « L'âme du fanatisme », un texte de 1922. Chaque mot de cette phrase d'Alain serait à interroger, mais nous n'en soulignerons aujourd'hui que les grandes lignes. Le mot catholique doit être entendu à partir de son sens grec « catholikos », c'est-à-dire de façon universelle. Lorsque l'homme pense que sa vérité est universelle, il y a le risque qu'il cherche à convertir l'autre ou le persécuter s'il n'y arrive pas. Dès que les hommes pensent en termes de vérité, les conflits sont comme la faute décrite dans le quatrième chapitre de la Genèse « tapis à notre porte ». Mais sommes-nous condamnés à désespérer ? Non. Car il y a un remède possible. En effet, à cette violence provoquée par l'universalité d'une vérité que l'on désire unique, remédie, dit Alain, la culture qui rend la diversité adorable. Il ne s'agit pas, bien sûr, ici, de redéfinir la culture, mais de prendre acte au moins de l'un de ses effets, à savoir la rencontre avec une diversité adorable, ce qui fait écho à une pensée de John Stuart Mill, citée par Alain Finkielkraut dans Une voix qui vient de l'autre rive. La seule façon pour un homme d'accéder à la connaissance objective d'un sujet est d'écouter ce qu'en disent les personnes d'opinions variées et comment l'envisagent différentes formes d'esprit. Jamais homme sage n'acquit sa sagesse autrement. C'est précisément le sens du dialogue talmudique qui en hébreu se dit marloquette, discussion entre les maîtres qui, par leur interprétation diverse, opposés, souvent contradictoires, nous rappellent que la vérité d'un texte consiste, comme le dit Barthes, non pas à lui donner un sens plus ou moins fondé, plus ou moins libre, mais au contraire d'apprécier de quel pluriel il est fait. Ainsi, il y a urgence aujourd'hui à refonder la vérité autour de cette pluralité de sens, autour de ce remède qui est la diversité adorable dont parle Alain, qui constitue l'espace du politique comme dialogue. Jacob Rogozinski, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation sur l'autre radical à l'occasion de la sortie de votre livre « Djihadisme, le retour du sacrifice » que vous publiez chez Des Clés de Brouwer, livre qui s'inscrit dans l'espace politique au sens que je viens de définir, l'espace du dialogue qui commence non par le fait de parler mais d'écouter. Vous vous êtes mis à l'écoute de l'islam et vous nous proposez de vous accompagner dans cette écoute. Écoutez. Comme vous l'avez souligné la semaine dernière, c'est ne pas s'arrêter à des visions essentialistes qui enferment les êtres et les choses et les situations dans lesquelles ils se trouvent. Écouter, c'est aussi accepter avec lucidité de faire l'état des lieux pour comprendre comment pourra évoluer telle configuration et tel état de fait. On pourrait dire que l'écoute est à la fois lucidité et générosité, din et chesed, dirait l'hébreu des textes de la Kabbale. Vous nous invitez à écouter avec vous, non seulement pour comprendre, mais aussi pour espérer, car en montrant la place originale qu'occupe chacun, la rencontre dans l'espace public peut se faire de manière apaisée, une façon en quelque sorte de sortir du tout religieux, qui à la longue est une approche piège, une forme d'enfermement et d'étouffement. C'est donc au philosophe que je m'adresse, dont la méthode commence, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par l'élucidation des termes du discours, par un dégel des idées préfabriquées. D'où ma première question, volontairement naïve, mais essentielle pour la suite de notre conversation. Qu'est-ce que la religion ? Comment, en tant que philosophe, Jacob Rogozinski, entendez-vous ce terme ?
Oui, il y a un grand philosophe qui est Paul Ricoeur, qui disait, qui était d'ailleurs un chrétien, qui convaincu, qui disait « La religion n'existe pas, il n'y a que des religions ».
Oui.
Bon, je crois que c'est important de le rappeler, et même les religions sont elles-mêmes diverses, multiples en elles-mêmes. Elles sont traversées par des courants très divers, et elles se transforment. Donc je pense que, bon, la semaine dernière, j'évoquais cette notion de dispositif, hein, que j'emprunte à Michel Foucault, et qui désigne justement des ensembles qui ne sont pas statiques, qui ne sont pas pas monolithiques, mais des ensembles contradictoires, traversés par des lignes de fracture et en constante évolution, constante mutation. Alors le terme de religion, bon, c'est un terme qui vient du latin. Je crois qu'il y a très peu d'équivalents dans d'autres langues. Il n'y en a pas en grec, sauf erreur, il n'y en a pas en hébreu. Donc c'est une manière vraiment très latine de penser la croyance.
Bon. Et vous parlez, vous, de dispositifs de croyance.
Voilà, moi je préfère parler, plutôt que de ce mot de religion qui se discute, hein, je préfère parler de dispositifs de croyance, justement pour insister sur le caractère multiple, pluriel et en mouvement, hein, de ce qu'on appelle les religions. Donc l'islam n'est pas un bloc. Il ne faut pas plus que le judaïsme ou le christianisme. Il ne faut surtout pas essentialiser l'islam, c'est-à-dire en faire un bloc unique qui se caractériserait par son fanatisme, ou qu'on pourrait définir au contraire, comme le disent beaucoup de musulmans, comme une religion de paix et d'amour. Bon, ce n'est pas vrai. Il y a les deux. Le fondamentalisme musulman, avec sa dimension fanatique, hein, qui apparaît fortement dans le djihadisme, appartient à l'islam. Le djihadisme a tout à voir avec l'islam. Et néanmoins, il défigure la vérité de l'islam.
Donc, il y a une sorte de contre-vérité au sein même de la vérité.
Voilà, ça, moi je pense que là-dessus je suis ce que dit Sigmund Freud. Hein. Il était pourtant athée et il considérait la religion comme une illusion. Et néanmoins, disait-il, il y a au cœur de l'illusion religieuse, hein, dans cette illusion qu'est la religion, il y a un noyau de vérité. Une vérité déformée certes qu'il faut interpréter, mais une vérité quand même. Moi je pense qu'il y a une vérité dans le religieux. Bon, et il y a donc une vérité dans l'islam comme dans le judaïsme. Voilà. Et cette vérité, elle peut être défigurée par ces courants qu'on appelle les courants fanatiques.
Alors dans ces dispositifs de croyance, plutôt que de sentiments, de croyances, de foi, vous soulignez l'importance du performatif et du rite, du geste. Comme s'il ne pouvait pas y avoir de religion sans rite, sans pratique, sans manifestation.
Oui, ça c'est un point important parce que dans l'Occident moderne et tout spécialement en France, on tend de plus en plus à réduire la religion à une foi purement intérieure. Et donc on a l'impression que le fait de manifester sa croyance par des signes ostentatoires qu'on dit, c'est-à-dire des marques d'appartenance qui apparaissent bon sur le corps, qui apparaissent dans la manière de s'habiller, de manger ou de jeûner, de ne pas manger, de pratiquer certaines fêtes, etc. Ce serait une sorte d'habillage superflu dont il faudrait se dépouiller pour atteindre la vraie religiosité. Ce n'est pas vrai. Hein, et bon, d'ailleurs, quelqu'un qui était un chrétien fervent, qui était Pascal, avait très clairement dit que bon, ce qui était essentiel, c'était pas d'avoir la foi, mais c'est ce qu'il appelle les formalités, hein, de la foi. C'est-à-dire, bon, se mettre à genoux, joindre les mains, prier. Et à ce moment-là, la foi arrive, dit-il. La foi est produite par les rites. Elle est produite par cet ensemble de schèmes et de gestes, de marquages corporels qui opèrent dans des dispositifs de croyance. Bon, que serait l'Église sans la sonnerie des cloches? Que serait l'islam sans l'appel du muezzin? Et que serait le judaïsme sans la sonnerie du chauffard?
Alors, vous dites de même que la religion n'existe pas, l'islam n'existe pas non plus, et il sera ce que les croyants en feront, selon une formule de Bourguiba que vous citez, ce qui souligne l'immense responsabilité que nous avons, nous, c'est-à-dire nous, toutes les personnes attachées à la démocratie, de soutenir activement les forces de l'islam qui s'opposent à la régression fondamentaliste. Mais pour cela, peut-être, doit-on être en mesure de distinguer l'islam authentique de l'islam fanatique? Comment y arrive-t-on, Jacob Rogozinski, selon vous?
Oui, je pense que, voilà, dès le moment où on cesse de considérer l'islam comme un bloc, dès le moment où on cesse de parler de guerre des civilisations, comme s'il y avait d'un côté le bloc occidental et de l'autre le bloc musulman qui serait en guerre éternelle, enfin bon, dès le moment où on pense qu'on a affaire à une ligne de fracture, à une guerre civile qui traverse aussi bien l'Occident que l'islam, les choses se posent tout autrement. Donc c'est effectivement notre devoir de soutenir activement tous ceux qui, dans l'islam, tous les musulmans donc, qui luttent souvent au péril de leur vie contre la régression fondamentaliste et contre le fanatisme. Et j'ajouterai tous ceux qui luttent pour une réforme de l'islam, pour une refondation de l'islam qui permettrait à ce dispositif de rompre autant que possible avec sa déviation fondamentaliste, avec ce fanatisme qui le défigure. Et ça implique effectivement de... Bon, je crois que c'est la tâche des musulmans et on peut les accompagner dans cette tâche. Ça implique un travail de relecture. Ça implique de retrouver, dans la tradition même de l'islam, ce qui pourrait permettre aux musulmans de résister à l'attraction mortifère, hein, du fondamentalisme et du djihadisme. Car il y a des trésors oubliés dans l'islam. Il y a des choses que bon, les occidentaux ont du mal à voir et qu'il suffit de se reporter au texte, se reporter à l'histoire pour savoir qu'il y a des éléments tout à fait intéressants présent et important dans l'islam, et que donc cette religion, ce dispositif ne se réduit pas à un seul bloc fanatique et terroriste. Bon, j'en donne deux exemples dans mon livre. À ce que j'appelle les trésors perdus de l'islam. Perdus, mais bon, peut-être simplement oubliés, dont il faudrait réussir à se rappeler, à se remémorer. Alors, le premier exemple, c'est la question du rapport entre politique et religion. Bon, très souvent, on s'imagine que l'islam est une théocratie qui fusionne les deux. Ce n'est pas vrai. Si on se rapporte au premier siècle de l'islam, on s'aperçoit que les chefs de l'islam, les califes, c'est un terme dont on parle beaucoup maintenant, les califes des premiers temps d'islam n'étaient pas du tout des chefs religieux, c'était des chefs purement politiques, parce que l'islam refuse toute sacralisation du chef politique, à la différence de ce qui se passait à l'époque en Occident, où durant tout le Moyen-Âge, les rois, les empereurs chrétiens étaient considérés comme des images du Christ, il y avait une religion royale, un culte impérial, etc. L'islam refuse cela. L'islam refuse cette idolâtrie qui consiste à considérer un chef politique comme une figure sacrée. Donc il y a une première tentative, avortée peut-être ou insuffisante, mais il y a quand même une tentative dans l'histoire de l'islam pour séparer le politique du religieux. Et donc une laïcité islamique devrait être possible, qui ne soit pas importée du dehors, mais qui s'appuie sur un élément important de la tradition de l'islam. Alors le second trésor oublié renvoie plutôt à la mystique, à la tradition soufie.
Et vous citez par exemple ce très beau texte de Ibn Arabi.
Oui, on dit souvent que l'islam est une religion intolérante, fanatique, qui exclut violemment les autres religions. Bon, alors c'est l'image que beaucoup de musulmans ont de l'islam aujourd'hui, mais ce n'est pas à cela que se réduit l'islam. Il y a eu autrefois, dans l'islam, des penseurs tout à fait admirables. Ainsi, au Moyen-Âge, il y a un grand maître du soufisme, c'est-à-dire de la mystique de l'islam, qui est aussi un penseur, Ibn Arabi, un auteur du XIIIe siècle, qui s'appuie sur un verset du Coran où il est dit « Partout où que vous vous tourniez, là est le visage de Dieu ». Il en conclut que toutes les religions adorent le Dieu unique, mais à chaque fois de différentes manières. Et donc, c'est un appel, bien plus que de la tolérance, c'est un appel à reconnaître dans toutes les religions du monde une part de vérité et une croyance juste. Alors, je me permets de lire un très très beau texte d'Ibn Arabi. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un auteur du Moyen-Âge. Et à cette époque-là, le christianisme était très loin de manifester la même tolérance, la même ouverture par rapport aux juifs notamment.
Et ça fait partie donc des trésors oubliés de l'islam qu'il faut, pour vous, retrouver. Je pense que c'est important.
Et ils sont encore vivants sans doute dans les confréries soufies ou chez les gens qui se réclament de cette mystique. Alors je vous lis donc ce texte, ce poème d'Ibn Arabi. « Autrefois, je blâmais ceux dont la religion n'était pas proche de la mienne. Mais aujourd'hui, mon cœur est devenu capable de toutes les formes. » Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Kaaba pour le pèlerin, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour, et quelle que soit la direction que prenne sa monture, l'amour est ma religion et ma foi.
Go down, Moses, way down in Egypt land. So hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down, Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down, down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Alors, Jacob Rogozinski, le plaisir d'écouter Armstrong en personne sur ce Let My People Go nous renvoie à cette référence fondamentale de la sortie d'Égypte qui est dans le judaïsme, que l'on retrouve dans ses rites, qu'il a mentionné à chaque pas de la vie juive, qui est présente aussi dans le christianisme et dans l'islam, réinterprétée de façon différente, mais gardant un noyau de signification, qui est celui d'un noyau de révolte contre l'oppression. Cette image invite à penser au salut, qui se traduit par la notion de messianisme, qu'il est important d'en comprendre les tenants, les aboutissants. Mais je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette idée de ce noyau d'émancipation qu'on trouve dans les différentes religions monothéistes, et je crois que c'est un lien important avec la compréhension de du djihadisme.
Oui, j'évoquais précédemment Henri Coeur qui disait « la religion n'existe pas, il y a des religions ». Il y a deux types très différents de religions. Je pense que vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je pense que la démarcation ne passe pas forcément entre polythéisme et monothéisme. Je dirais qu'elle passe essentiellement entre ces dispositifs qui sont au service du pouvoir, où la religion est au service de l'oppression, un instrument de légitimation de la domination et de domestication des dominés, comme disait le grand sociologue Max Weber, et c'est le cas de très nombreuses religions. Et d'autres dispositifs qui, au contraire, sont des dispositifs de protestation, hein, de révolte contre injustice, ce que j'appelle les dispositifs d'émancipation, qui sont orientés vers une idée de justice. Or, très clairement, le judaïsme, en mettant au centre de son histoire et de son message, le récit de la sortie d'Égypte, de l'Exode, donc de la sortie de la maison d'esclavage d'un peuple voué à l'extermination, qui marche à travers le désert vers la terre promise, ce qui n'est pas seulement une terre où coule le lait et le miel, qui est une terre sans maître, sans roi, une terre où règne la justice et l'égalité. Le judaïsme a mis au cœur même de son message cet idéal d'émancipation. Or, c'est le même dispositif, c'est le même idéal que l'on retrouve dans des croyances différentes, mais issues du fond, de la racine du judaïsme, à savoir le christianisme et l'islam. En s'agissant de l'islam, très clairement, ce qu'on appelle l'hijra, enfin l'égir, donc la sortie des premiers musulmans quittant la Mecque où ils étaient persécutés, traversant le désert sous la conduite de leur prophète pour rejoindre Médine, c'est une manière de rejouer, de répéter, on le dit pas assez, mais c'est une manière de répéter l'épisode de la sortie d'Égypte. Et très clairement, cette dimension émancipatrice, elle est présente dans le Coran, elle est présente dans l'islam des premiers temps. Il s'agit de défendre les humiliés sur la terre, les opprimés sur la terre, de les faire sortir de la cité dont les habitants sont injustes. Donc il y a une critique de la sacralisation du pouvoir, hein, qui est très présente dans le Coran et qui là encore reprend les personnages de Moïse et du Pharaon. Je crois qu'il faut insister, réinsister sans cesse sur la grande proximité qu'il y a entre l'islam et le judaïsme.
Mais à partir de là, donc, comment cette logique de l'émancipation, ce dispositif d'émancipation, va être repris par le djihadisme pour le transformer en logique de haine et en logique de guerre. Comment, par exemple, cette logique, ce dispositif d'émancipation va nous introduire à la dimension ou à la question du messianisme et va produire deux types de messianisme et donc, d'une certaine manière, une forme de violence d'un côté et non de l'autre. Jacob Rogozinski.
Oui, tout dispositif d'émancipation peut, dans certaines conditions, se défigurer et devenir un dispositif de terreur. Alors, le messianisme, je pense qu'il y a un schème messianique. C'est une représentation qui traverse les siècles et qui a mobilisé puissamment l'espérance des opprimés. Le messianisme, c'est l'attente d'un sauveur, d'un libérateur qui viendra rétablir la justice et l'égalité entre les hommes. Et donc, voilà, à travers des événements plus ou moins cataclysmiques, une apocalypse, il y a différentes variantes. Alors, il peut arriver que cette révolte et cette espérance, qui sont des sentiments positifs qu'il faut soutenir, il peut arriver que cette révolte, cette espérance vienne se nouer à ce sentiment négatif, mauvais, maléfique, qu'est la haine. Alors comment est-ce possible? Eh bien, je dirais que c'est possible lorsque la figure du Messie se dédouble et lorsque la figure du Messie comme libérateur, on adjoint la figure d'un anti-Messie, d'un contre-Messie qui serait purement diabolique, qui serait malfaisant. Alors ça n'apparaît pas dans le judaïsme, ou alors de manière extrêmement marginale dans le livre de Daniel, c'est presque aussitôt évacué, ça n'appartient pas à la tradition juive. Donc on peut penser à un messianisme qui soit pure espérance, pur désir de justice, sans aucune haine. Ça c'est au cœur même du messianisme juif, me semble-t-il. Alors en revanche, très tôt dans le christianisme et plus tard dans l'islam, cette figure de l'anti-messie va surgir. Alors c'est ce que les chrétiens appellent l'antéchrist, et c'est ce que les musulmans appellent le dajjal, c'est-à-dire en arabe l'imposteur. Et donc ils envisagent la venue du Messie comme un combat, une bataille eschatologique, un combat de la fin des temps qui mettra aux prises les armées du Messie, les armées du bien et les légions de l'antéchrist ou du Dajjal qui sont les légions du mal, les légions maléfiques. Et bon, dans cette grande bataille ultime, s'annoncera l'apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps, la résurrection des morts, etc. Alors pour les chrétiens, ce combat final aura lieu à Armageddon en Galilée. Alors pour les musulmans, ça aura lieu à Dabiq. À Dabiq, qui est un petit village du nord de la Syrie. Alors Dabiq, comme par hasard, mais c'est évidemment pas un hasard, Dabiq, c'est le nom d'une des revues de Daesh. Et dès le départ, bon, Daesh a mis en avant cette dimension messianique et apocalyptique. Et c'est un très puissant facteur d'attraction. Je suis persuadé qu'un grand nombre de jeunes musulmans du monde entier qui ont rejoint les rangs de Daesh pour combattre avec étaient persuadés qu'ils allaient avancer vers la bataille finale, vers la venue du Mahdi, c'est-à-dire du Messie que l'islam attend, vers la défaite du Dajjal, de l'imposteur.
Et cet imposteur, alors, il a un nom, il a une figure, c'est un ennemi à la fois réel et imaginaire et absolu, parce que il y a un lien fondamental entre ce messianisme et l'antisémitisme.
Oui, c'est-à-dire que bon, l'antéchrist dans la tradition du Moyen-Âge, c'est très clair chez les théologiens du Moyen-Âge, l'antéchrist est juif. Il naît de la tribu de Dan, il essaie de rassembler, il se fait passer pour le Messie d'Israël, etc. Et dans la littérature messianique qui se développe depuis quelques années dans le monde de l'islam, bon, d'abord dans le monde chiite qui est très pénétré par cette dimension messianique, puis plus récemment, plus tardivement dans le monde sunnite, cette figure du Dajjal vient se charger de traits caractéristiques. Le Dajjal, bon, c'est Israël, c'est le juif, c'est ce qu'ils appellent le sionisme, c'est-à-dire le juif comme figure maléfique. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est très profond, qui est très ancré, dont le christianisme a réussi, après 15 siècles d'anti-judaïsme chrétien, a réussi enfin à se débarrasser en grande partie. Donc, c'est donc possible. Un puissant dispositif de croyance qui était dominé pendant des siècles et des siècles par l'anti-judaïsme, par la rivalité mimétique avec le judaïsme, par l'enseignement du mépris et de la haine, a pu arriver à se réformer et à y renoncer. Si l'Église y est arrivée, pourquoi est-ce que l'islam n'y arriverait pas un jour?
On a évoqué la semaine dernière, et vous venez de l'évoquer aussi aujourd'hui, la question de l'ennemi réel et l'ennemi absolu. Si c'est un ennemi réel, la guerre est purement stratégique, la terreur est stratégique et on peut arriver à la paix. Si c'est un ennemi absolu, la paix sera quasiment impossible parce que il y a un problème qui est peut-être pas de l'ordre de l'émancipation et de la reconnaissance de l'humiliation et du retour à je dirais, de l'arrêt de l'injustice, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que vous développez dans un chapitre vraiment passionnant qui s'appelle, que vous appelez le complexe d'Ismaël, où on a l'impression que dans ce complexe d'Ismaël, il y a une blessure symbolique qui est quasiment impossible à résoudre. Qu'est-ce que vous appelez le complexe d'Ismaël? Jacob Rogozinski.
Oui, dans notre entretien la semaine dernière, effectivement, à la fin, là, je disais qu'il fait distinguer deux types de reconnaissance, une reconnaissance sociale et une reconnaissance qu'on pourrait appeler symbolique. Bon, ceux qui souffrent d'une absence de reconnaissance sociale, ceux qui sont confrontés au racisme, au chômage, et donc on peut, par des réformes sociales profondes, arriver à tarir ce foyer de révolte, de colère et éventuellement de haine. Alors la reconnaissance symbolique, je ne pense pas qu'elle soit impossible à obtenir. Je ne pense pas que... Il n'y a rien d'impossible si on se situe dans la longue durée. Même l'Église y est arrivée à un certain niveau. Alors, encore une fois, pourquoi pas l'islam?
Espérons, mais alors qu'est-ce que c'est que voilà. Cette blessure symbolique, et qu'est-ce que c'est que le complexe d'Ismaël, Jacob Rogozinski?
Oui, alors cette blessure symbolique, elle remonte très loin, donc il faudra quelques siècles sans doute pour essayer de la surmonter. Bon, mais elle remonte au premier temps de l'islam. C'est-à-dire que l'islam se présente comme la dernière des trois révélations que j'appelle abrahamiques, voilà, issues du foyer central d'Abraham, de l'histoire d'Abraham. Alors, l'islam reconnaît les religions précédentes, judaïsme et christianisme, comme étant des révélations authentiques, quoique altérées dans leur transmission. Bon, ça c'est un point à creuser, mais laissons ça de côté pour l'instant. Mais donc l'islam reconnaît ses prédécesseurs, alors que ni le judaïsme ni le christianisme ne reconnaissent l'authenticité du message de l'islam. Donc là, il y a un déni de reconnaissance fondamentale qui est constitutif de la position historique de l'islam. Alors pourquoi j'appelle ça complexe d'Ismaël ? Bon, dans la légende, Ismaël passe pour le fils aîné mais non légitime d'Abraham, passe pour l'ancêtre des Arabes, alors que Isaac est son fils plus jeune mais légitime, serait l'ancêtre des Juifs. Donc le complexe d'Ismaël, c'est le complexe, c'est une expression imagée que j'ai forgée, c'est le complexe qui affecte un frère qui estime qu'il est aussi légitime, voire plus légitime que l'autre frère, et que néanmoins il ne se sent pas aimé, il ne se sent pas reconnu. On est là, on a cœur de la reconnaissance, il ne se sent pas reconnu par le père.
Pourtant, dans le texte, à la fin, Abraham reconnaît aussi bien Ismaël que Isaac. Donc c'est, oui. Il faudrait peut-être, pour sortir de cette blessure symbolique, tout simplement retourner au texte. Et le retour au texte, à la lecture et l'interprétation est peut-être une solution de cette blessure symbolique.
Oui, absolument, absolument. Et puis il y a un autre exemple de frères ennemis, c'est Jacob et Ésaü. Et là, Jacob, de manière assez déloyal, réussit à s'emparer du droit d'aînesse et à confisquer à son profit la bénédiction de son père Isaac. Et donc Ésaü est fou furieux, il pousse des hurlements de rage. Et après il vient supplier son père, le vieil Isaac qui est sur le point de mourir. Il lui dit, mais mon père, est-ce que tu ne peux pas me bénir aussi? Et là, dans le texte de la Torah, c'est très étonnant. Enfin, il y a un long silence. Et Isaac hésite, et puis finalement, il se décide, et il le bénit aussi. Il lui donne aussi une bénédiction. Donc, il y a un partage de la bénédiction paternelle. Et il y a donc un partage de la promesse divine, un partage de la révélation, qui fait que ces trois religions, ces trois dispositifs de croyance, sont trois phases différentes d'une même et unique révélation, sont trois testaments d'un même héritage. Donc, je pense que les trois frères doivent arriver à se reconnaître les uns les autres, et donc à partager la promesse dont ils sont les porteurs. Et là, ce serait peut-être le chemin qui nous conduirait vers la réconciliation et vers la paix.
Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, et cela rejoint à mon sens la pensée de Franz Rosenzweig, qui dans l'Étoile de la Rédemption, bien qu'il ne parle pas de l'islam dans ce contexte, explique que les religions ont, dans leurs différences, et il insiste, dans leurs différences, part à la vérité, ce qui signifie, pour Rosenzweig, que l'essence de la vérité, c'est d'être en partage. Et je crois que c'est essentiel parce que ça ouvre à la particularité et à l'élection. Il y a comme une redéfinition de l'élection qui concerne chaque peuple. Être élu veut dire pour chaque peuple être choisi et être différent. Et le dialogue, dès lors, est un dialogue entre élus, c'est-à-dire entre différents. Chaque tradition, et je crois que c'est vraiment nouveau et il faudrait l'entendre plusieurs fois, chaque tradition est là pour empêcher les deux autres, séparément ou ensemble, de se prendre pour la totalité de la vérité. Car celle-ci, tout comme Dieu, reste toujours transcendante à toutes les traditions religieuses. La vérité partagée est le fondement même de l'altérité radicale qui est, je pense, un des legs essentiels du judaïsme, ce qui nous permet de comprendre pourquoi Rosenzweig a tant influencé Lévinas. Il faut donc apprendre à penser autrement, comme vous nous le proposez, Jacob Rogozinski.
Plus importante peut-être que la guerre qui oppose violemment les chiites et les sunnites, il y a cette guerre qui, au sein même de l'islam, oppose ceux qui s'en tiennent à la dimension littérale et fanatique de cette religion, et ceux qui cherchent au contraire à débloquer, à dégeler les paroles du Coran pour l'ouvrir à une réalité autre, c'est-à-dire à une certaine fraternité, à une certaine modernité, à une certaine laïcité et à la démocratie. Ils existent dans le monde de l'islam et nous devons les aider, nous devons les soutenir par tous les moyens.
La question essentielle est sans doute de comprendre comment sortir de ce complexe d'Ismaël. Je crois que c'est possible. On pourrait tout d'abord imaginer que les lecteurs de ces textes apprennent à se distancier des récits de ces textes fondateurs et ne pas confondre l'imaginaire narratif et le réel, parce que, en fin de compte, ce ne sont que des textes et que des légendes. Apprendre à lire, à commenter, à dégeler les paroles du livre. Les livres, comme je le disais la semaine dernière, ont besoin de printemps. Je pense à ce vers du poète Yehuda Amichai qui dit « Dans le pays où les hommes ont toujours raison, les fleurs ne fleurissent pas au printemps. » Jacob Rogozinski.
Oui, tout à fait. Bon, tout à l'heure, je parlais du terme latin religio qui a donné religion. Bon, la racine authentique, c'est sans doute religere, qui peut signifier entre autres choses relire. Être religieux, c'est d'abord relire. Je pense que bon, le fanatique, c'est celui qui ne relit pas. C'est celui qui adhère de manière immédiate à sa croyance, sans prendre le recul critique, sans prendre le temps d'interprétation. J'évoquais bon les mystiques soufis, Ibn Arabi tout à l'heure. Bon, je pense qu'il y a dans l'islam des forces du côté soufis, mais aussi d'autres types de penseurs rationalistes comme Averroès et des penseurs plus contemporains. Bon, je pense qu'il y a dans l'islam des forces, des gens qui travaillent à la relecture de leurs messages, qui travaillent donc à dégeler les paroles de l'islam pour les rendre plus vivantes, pour les faire circuler, leur donner du sens, un sens nouveau. Et je pense qu'il faut aller dans ce, il faut les soutenir, il faut aller dans cette direction. Il faut soutenir tous ceux qui cherchent à libérer l'islam de ce qui le défigure, c'est-à-dire de la gangue de fanatisme, de dogmatisme, du blocage historique et symbolique qui entraîne une partie seulement, mais une partie importante quand même, des musulmans vers le fanatisme.
Merci Jacob Rogozinski pour cette conversation passionnante. Merci pour votre livre très bien écrit, clair et profond, qui ouvre à la construction de cette diversité adorable qu'Alain appelait de ses voeux, un livre de lucidité et de générosité, de rigueur et d'espérance. Merci encore.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Michel Bernaud. À la réalisation, comme toujours et comme d'habitude, Dany Journaud, Coltouve, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.